On parle encore juste quelques mots pour continuer la conférence d'hier. On m'a posé la question, pourquoi l'organisation des rythmes et le métronome, etc., dans les séquences des vents est comme ça, comme il est. Et la seule réponse importante, c'est sans entrer en détail comment c'était fait, c'est que chaque œuvre, et chaque compositeur, je pense que vous avez exactement la même technique, avant de commencer une composition, d'avoir une idée, un projet, on cherche, disons, dans la tête, la conception globale. On a déjà une image, sonore même, sur la pièce, ce qu'on vient de faire. Et tous les éléments en détail, ce qui concerne la forme et les différentes possibilités pour réaliser, ça vient de cette idée générale, ce qu'on a déjà en avant. Alors, je ne sais pas comment la pièce sera. C'est comme Tolstoï a dit, on ne sait pas si la dame va mourir à la fin ou pas, on verra. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est exactement comme une architecte. Avant de faire la construction de la maison, il faut poser tout simplement la question de quelle façade je veux, comment est la place sur laquelle je fais, c'est plat ou la petite montagne, où est le soleil, de quel côté ça vient. Je veux faire un grand maison, une petite maison, avec une maison avec beaucoup de fenêtres ou pas du tout fenêtres, ou un seul grand vitre. Et toutes ces questions, il faut le voir, il faut le sentir et il faut le savoir en avant, avant de commencer de faire la construction. Et pour moi, dans le cas de séquence des vents, l'organisation de rythme et l'organisation de métronome avaient exactement cette fonction. Je savais que je vais organiser tous les éléments. Et cette organisation, point de vue temps et rythme, ça doit être très clair et très simple. Il faut que le système se présente lui-même. Par exemple, que les durées restent dans une proportion le plus simple possible. C'est pour ça que j'ai choisi 1, 2, 4, par exemple, dans un des mouvements. Et quand j'ai les éléments 1, 2, 4, bien sûr, les trois éléments, ce n'est pas suffisant pour faire une forme globale. Alors, je vais reprendre plusieurs fois le 1, 2, 4, mais pour la raison statistique, par exemple, je peux prendre l'élément 1 4 fois et l'élément 4 seulement une seule fois. Et comme ça, dans une certaine série, statistiquement, ça donne une forme globale qui me convient bien. Ça pourrait être différent, c'est une décision. On regarde et c'est ce que je sais. Et c'est le résultat, que le résultat reste quelque chose de simple et clair. Par exemple, la question des nuances dans les séquences des vents. Les nuances servent, vous pouvez regarder dans le troisième mouvement, je pense, juste pour suivre les tendances. Alors, quand on a une ligne qui monte dans la série des harmoniques, j'ajoute un crescendo, une façon de crescendo, disons. Quand ça descend, un diminuendo. Le rôle du imitateur du vent, c'est ce qui fait celui-là, c'est le wind imitation. Il fait rien d'autre que il montre les tendances, qui c'est nous montons ou nous descendons. Ou par exemple dans un des mouvements quand le tuba joue, c'est aussi dans le troisième, je pense. Il joue une note et après il chante un quinte et après le quinte un quart de ton plus bas. Je savais même, moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et maintenant, pendant les analyses, quand j'ai préparé, j'ai découvert que dans le moment, quand il chante le quart de ton, je n'avais pas suffisamment de possibilités de faire les harmoniques dans l'auteur juste. C'est-à-dire, on aura plus de quart de ton, plus qu'une quart de ton, deux ou trois. Si je reste sur le même tonalité dans laquelle je suis, mais si je transpose un quart de ton plus bas, dans ce moment, deux notes deviennent normaux, et une seule note reste un quart de ton. Alors, c'est une transposition dans le moment donné une transposition de quart de ton, et pour montrer cette transposition, j'ai souligné avec le tuba, quand il chante un quart de ton, ça donne une petite vibration, c'est-à-dire le moment un peu différent que le reste. Alors, toutes ces tendances dans les séquences des vents donnent seulement une information sur le fort même. Et c'est pour ça que très souvent, moi j'aime beaucoup de faire la comparaison avec l'architecture, parce que l'architecture nous permet d'avoir visiblement cette forme de pensée d'un architecte. Alors quand vous, par exemple, si vous faites un essai avec les maisons renaissance ou baroque, regardez comme ça, fermez les yeux et essayez de trouver après mémoire combien de fenêtres vous avez vues. C'est combien d'étages, combien de fenêtres. C'était 8 ou 9. C'est une question très importante. Parce que si c'était 8 fenêtres, ça veut dire que c'est un bloc symétrique. Si c'est 9, c'est symétrique, mais plus à l'aise. Alors 8, c'est un peu rigide, souvent, et 9, ça c'est déjà quelque chose qui est un tout petit peu plus, je ne sais pas comment dire en français, gelöst, alors à l'aise, je dirais, je pense, oui.
Par rapport à la symétrie,
oui.
Dans la deuxième séquence du vent, dans l'organisation métrique,
ici.
Dans l'organisation métrique de la deuxième séquence des vents, j'ai relevé plusieurs axes de symétrie qui se superposent et qui se tuilent. Est-ce que c'était l'objet d'un travail conscient? Ou est-ce que c'est lié au fait que, en fait, il y a toujours un dénominateur commun qui est 7? Et que, du coup, est-ce que c'est une simple conséquence du travail de proportion?
Dans le deuxième mouvement?
Oui.
Je ne peux pas répondre parce que... C'est tellement loin pour moi, c'est 25 ans. Et oui. Maintenant, quand j'ai préparé d'avoir quelques informations pour vous dans les dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps parce que c'était très difficile de reconstruire pour moi. Et malheureusement, je ne peux pas répondre. La seule chose ce que je peux répondre est que j'étais très content de voir que, disons, malgré tous ces règlements très stricts, on ne sent pas, quand on écoute la pièce, que c'est une pièce bricolée. Oui, alors, c'est pas, on n'entend pas que, bon, on a la règle, que ça monte, ça descend, on coupe ici. On entend vraiment un résultat musical.
Oui, j'étais impressionné parce que oui. les symétries se nuançaient les unes les autres.
C'est possible.
Et ça créait ce que vous dites.
À mon avis, vous connaissez mieux dans ce moment le deuxième mouvement que moi, parce que après un certain temps, ça me semble aussi beaucoup moins important. Alors, cette phase de construction, c'est très important jusqu'à le moment quand on a créé l'œuvre même. Et quand la création se passe bien et on voit que l'œuvre peut continuer à vivre aussi sans moi, dans ce moment, ça c'est fini. Alors, ça ne m'intéresse plus. Je prends un autre projet, et l'autre projet, c'est automatiquement un autre règlement. Pour avoir une conception claire avant de commencer pièce, je vous donne un autre exemple très simple. Quand j'ai commencé d'écrire mon opéra pour Lyon, les trois sœurs, j'ai demandé... de choisir les chanteurs en avance. Alors, avant de composer, j'avais 5 auditions à Lyon sur lesquelles on a écouté à peu près 50-60 chanteurs. Et le choix des chanteurs, chanteuses, était pour moi pas seulement la qualité vocale, mais aussi le comportement physique. Alors je voulais faire une opéra dans laquelle, c'est comme dans le théâtre ou dans le cinéma, comme auditeur, comme public, je le crois, c'est ce que je vois. Alors, ce n'est pas suffisant d'avoir une belle voix. Et c'était assez difficile parce que dans les trois sœurs, on a 4 rôles des contraténors. Alors, chaque rôle des femmes sont chantées par les contraténors. Et ce n'était pas évident, disons, de trouver tous ces gens, parce que les contraténors viennent normalement du répertoire baroque. Et je n'étais pas sûr s'ils sont capables de chanter ou apprendre d'autres choses que baroque ou classique. Et depuis là, je vois que cette technique ou cette tendance chez moi d'avoir le plus d'informations possibles avant de faire la première note, c'est vraiment la phase plus importante. Je dirais que la préparation d'une œuvre dans la proportion de la réalisation, c'est au moins 3 sur 1. Alors on passe beaucoup plus de temps avec la conception qu'après avec la réalisation. C'est peut-être de chaque œuvre, c'est différent. On trouve les pièces plus compliquées à écrire et une conception très vite, ou contraire. Mais c'est ce que je trouve important et bien, qu'on essaie de collectionner toutes les informations nécessaires avant de commencer, parce que toutes les petites informations peuvent influencer le projet plus tard. Un autre exemple, puisque dans mon praxis, je sais que la disposition d'une orchestre, pas la disposition, c'est la composition d'une orchestre. Alors combien des instruments vous prenez, ou quelle sorte d'instruments vous prenez pour une pièce orchestrale, c'est un très grand problème, surtout quand l'orchestre fait une tournée. Quand j'ai écrit le Psychocosmos en 94, c'était prévu pour une tournée avec le Junge Deutsche Philharmonie, plusieurs concerts, 6 ou 7. Et dans ce moment, pour l'orchestre, il faut savoir exactement combien de musiciens on aura pour ce projet et, si c'est possible, réduire au minimum. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on joue avec le même programme. Et comme c'est moi qui dirigeais la tournée, on a fait le Mandarin Merveilleux, le ballet complet. On a fait, c'est pas encore un jeune compositeur de Cologne, et ma pièce. Et j'ai dit, bon, si on fait le Mandarin Merveilleux, c'est une pièce de répertoire. Si je reste à peu près dans le même effectif, ça serait bien, il ne faut pas engager d'autres musiciens. Et aussi pour plus tard, quand on rejoue cette pièce, si on dit que c'est à peu près comme le Mandarin, on dit, bon, ok, on le sait. Et depuis là, le deuxième projet, c'était Atlantis. Je l'ai montré tout à l'heure. Atlantis, dans lequel j'avais un projet pour, disons, lutter un tout petit peu contre le système d'orchestral que la formation d'un orchestre classique reste toujours dans la même forme. C'est-à-dire, la formation classique, c'est le 16 premier violon, 14 deuxième, etc. D'avoir beaucoup de cordes et relativement des vents à 3 ou à 4 maximum, un peu de percussion, 2 ou 3 ou 4. C'est une forme du 19e siècle pour moi. Et j'ai lutté pas mal, aussi verbalement, dans différents... avec différents journaux, alors dans la grande publicité, pour que cette structure rigide d'une orchestre sera plus en plus libérée. Mais naturellement, c'est un problème d'organisation, c'est un problème financier, parce que si on souhaite, comme compositeur, qu'on a, je ne sais pas, 12 flûtes à la place de 16 premiers violons, ça pose un très grand problème pour organiser et pour payer. Parce que si vous n'utilisez pas les violons, il faut payer les flûtes, mais ils n'ont pas contrat, alors il faut payer en plus, etc. Alors même si vous avez les idées fantastiques, de temps en temps, on ne peut pas réaliser parce que ça ne va pas. On peut faire peut-être une fois à Donaueschingen, mais après c'est fini. Personne ne rejoue ça. Alors, la question, combien d'instruments, quel instrument vous choisissez pour une pièce orchestrale, sans rester trop dans la forme, dans la sonorité classique, parce que la formation est la même, Là, il faut bien d'avoir une conception et il faut connaître un peu aussi le mécanisme des différents orchestres, des différents producteurs et rédacteurs surtout. Dans le cas Atlantis, j'ai dit, j'essaie de faire une pièce sur ce que je veux. Alors on verra, j'accepte plus la formation comme il est. Et je vais proposer un très grand orchestre avec du chœur et une sonorité que j'ai jamais fait. Alors je vais proposer une autre sonorité maintenant avec un autre orchestre. Et je suis arrivé sur un effectif assez grand. Chaque vent a 5, alors 5 flûtes, 5 hautbois, parce que c'était très simple. Dans le mythologie d'Atlantis, le chiffre 5 joue un rôle très important. Tout est à 5 autour de l'Atlantis. Alors je voulais garder cette grande formation. Et j'ai vu que, bon, ça va être difficile, mais qu'est-ce que je fais avec les cordes? Je ne veux pas les cordes. Alors, j'aimerais avoir deux quintettes à cordes, c'est-à-dire deux violons alto, violoncelle, contrebasse, deux fois, gauche à droite, mais pas plus. Alors, les autres, non. Par contre, j'ai besoin deux fois cinq percussions. Bon, ça fait 10 percussions. Jusqu'à 4, ça va, mais après, ça commence à être un peu difficile. Et j'ai besoin du chœur, mais le chœur, comment je fais le chœur? J'ai besoin d'une sonorité pour le chœur dans laquelle le chœur chantera comme un chœur sous l'eau, sous-marine, ou c'est comment on dit, c'est comme un chœur dans l'eau. Alors, c'est déjà disparu depuis 1000 ans, ou 2000 ou 4000 ans, on ne sait pas. Alors c'est l'idée Atlantis, comme ça, je ne sais pas comment. Et j'ai regardé le chœur, s'ils peuvent le faire, non, je ne pense pas. Alors peut-être c'est mieux de ne pas utiliser le chœur, mais j'ai besoin de la sonorité. Alors j'ai trouvé sur le synthétiseur, l'ancien synthétiseur Yamaha, le DDX7, les différents programmes qui ressemblent très bien pour un chœur sous-marin, si ça veut dire. Parce qu'il chante très, dans le très grave et très long, mais quand même de l'impression, surtout aujourd'hui, pour un public qui voit toute la journée le télé, le cinéma, dans le cinéma, c'est plein avec cet effet. Alors, si on ferme les yeux, on écoute ça, on dit que ça sonne comme un chœur sous-marin. Bon, j'ai dit, bon, c'est beaucoup mieux pour moi. Je ne prends pas le chœur, ça sera beaucoup moins cher, mais j'ai besoin peut-être trois synthétiseurs, parce que chacun peut jouer seulement deux notes avec ce programme-là, à six voix, alors trois synthétiseurs. Bon, alors, ça c'est le côté anecdotique, mais c'est ce que je veux montrer avec cet exemple, qu'avoir un résultat, ce qui fonctionne, on a tellement des informations avant la production, tellement stupides comme celui-là, c'est ce que dit maintenant. Mais à la fin, on a une pièce qui commence à fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que Varese, dans le Arcana, il a utilisé la même formation. On a 5 flûtes, 5 hautbois, 5 clarinettes, 6 percussions, mais bon, on va ajouter encore 4 si c'est possible. Et on a les grands chœurs des cordes. Malheureux Varese, pour qu'il l'utilise, ce n'est pas nécessaire, ça on pourrait faire avec moins de cordes. Mais bon, je peux dire pour mon Atlantis, s'il vous plaît, prenez Atlantis avec Arcana et vous auriez pour ma pièce moins de cordes que pour Arcana. Ils ont dit, bon, moins de musiciens, c'est vrai, oui, bon, ok, on le fait. Si on dit que j'ai un peu plus de musiciens, on dit, on ne sait pas. Alors, depuis là, malgré la très grande formation, Atlantis est pas mal joué. On a joué depuis 5 ans, c'est pas 6, 7, 8 fois. Et bien que c'est cher, parce que c'est grande formation et amplification et tout ça, mais c'est fonction parce que j'ai trouvé toujours une liaison avec quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour vous, c'est important de savoir, dans le terme, que quand vous faites une pièce, j'ai la chance, pas unique, mais assez rare, que tout ce que je fais, je peux trouver une commande. C'est-à-dire, même je cherche pas, on me demande d'écrire une pièce pour certains. Et dans ce moment, je m'informe toujours sur la formation, sur la qualité, sur le lieu, dans quel concert vous jouez, quels seront les autres compositeurs. Si c'est un programme très important, juste un exemple, j'ai créé une pièce tout récemment pour le London Symphony Orchestra, parce que Boulez a fait une tour internationale avec cet orchestre qui s'appelait Boulez 2000. Alors le commande, c'était pour le LSO, et dirigé par Boulez même. Et on a fait un programme dans lequel on a joué le Prince en bois de Bartók et Zero Points. Ah, Ligeti, le concerto pour violon de Ligeti. Oui. Alors, dans ce cas, j'ai pris l'exemple de Bartók, parce que Ligeti, c'est une petite formation. Je pourrais faire aussi Ligeti, mais c'était un peu trop petit pour moi. Et même pour la première partie du concert, si on commence un concert avec une petite formation comme le Ligeti, et après on joue une pièce de Ligeti, c'est, dans la dramaturgie du concert, c'est une erreur. Alors, c'est bien sûr que si j'écris une pièce pour ce programme-là, qu'on va rejouer 7, 8, 9 fois, il faut que ça commence avec un tutti, après on aura un petit effectif Ligeti, et après on remonte et on fait le Bartók avec le grand effectif. Et on m'a tenu de la part des Anglais, assez strict, on a dit, on n'a que 4 percussions, ou 5, on n'a pas plus, et ce qu'on a, qu'est-ce que je voulais dire, qu'on a certains minutages, c'est ce que je peux utiliser et pas plus, et on a peut-être 2 répétitions, 1 ou 2 répétitions. Alors, dans ce moment, il faut avoir une certaine expérience pour savoir qu'est-ce qu'on fait là. Parce que l'orchestre, le London Symphony Orchestra est un orchestre très virtuose, Boulez quelqu'un qui est très très virtuose, la pièce, si c'est sera programmé dans le premier place au concert, ça devrait avoir un caractère ouverture, disons, entre guillemets, une ouverture. En tout cas, si vous écrivez une pièce, il faut le bien penser, c'est pour quelle partie d'un programme voulez-vous faire. Parce que de dire que c'est plutôt un début d'un programme, ou c'est un concerto, ou le milieu d'un programme, ou c'est un final de programme, ça, à première vue, ça semble très conservateur comme esprit. Mais dans la réalisation pratique, n'importe quel concert vous réalisez, ça sera toujours au début, ou la fin, ou le milieu. Alors, les fonctions, c'est toujours la même. Même si vous écrivez une pièce, que vous savez que ça serait enregistré. Alors, même si vous écrivez une pièce que pour un enregistrement, par exemple, si vous faites la musique pour film ou pour théâtre, pour un CD, c'est complètement différent conception qu'une pièce du concert. Si vous voulez qu'on joue en concert, on joue aussi, on peut enregistrer aussi, il faut bien penser qu'est-ce que ça donne sur l'enregistrement, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à le DVD et production, une pièce comme Gruppen de Stockhausen, par exemple, c'est vraiment sur un enregistrement, ça ne donne pas grand-chose. Ça donne seulement information sur le bruit autour de l'orchestre, mais ce n'est pas du tout le même espace et la même espèce, idée que dans la forme du concert. Si vous avez une possibilité d'écrire pour un ensemble, par exemple, suivez un certain moment cet ensemble pour voir dans quelle forme il peut jouer. Est-ce qu'ils sont plutôt lyriques, plutôt dramatiques, plutôt virtuoses, virtuoses ou pas. S'ils sont virtuoses comme intercontemporains, il faut écrire des choses pas mal, assez virtuoses, parce qu'autrement ça ne fonctionne pas. Ils peuvent jouer n'importe quelle pièce, mais le caractère d'intercontemporain, c'est plutôt la virtuosité. Et dans le cas de London Symphony Orchestra, quand je sais qu'on n'a pas suffisamment de répétitions, je dis, j'écris pas une pièce très légère parce que ça ne donne aucun intérêt pour le public, mais je donne pour chaque musicien un petit parti, peut-être quelques mesures ou 30 secondes ou maximum 1 minute, un peu difficile. Alors, c'est pas difficile, mais complexe. Et comme ça, chacun a une... il prend la musique avec lui au moins une fois pour regarder à la maison. Mais il n'est pas chargé pour jouer une musique difficile pour tout le temps. Et ça, c'est le cas aussi dans les Trois Sœurs. J'ai utilisé deux orchestres dans lesquels la petite formation, dans la fosse, 18 musiciens, ils ont un peu plus compliqué comme musique, il faut apprendre un tout petit peu plus que la grande formation au fond du scène avec 50 musiciens. C'est relativement facile, mais il faut trouver toujours la balance entre la sonorité complexe et une réalisation légère. Alors ça c'est très difficile. Et alors tous ces éléments ce que je vous raconte maintenant, c'est seulement pour dire une seule chose, que la conception, la partie, c'est ce que vous faites avant la composition, c'est même plus important, je dirais, que la réalisation. La réalisation, là, après, pendant la réalisation, par exemple, moi, je suis tout simplement, c'est ce que je vois. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va continuer, mais je regarde, il y a plusieurs possibilités, je décide, ça va aller comme ça, peut-être, qu'est-ce que ça donne si je fais comme ça? Ah, très bien. Ça donne déjà une nouvelle idée, alors on continue la pièce différemment que c'était avant. Ça suffit, je pense. Maintenant, quelques mots sur la disposition des orchestres. Ça, c'est le thème pour aujourd'hui. Et je voudrais vous montrer quatre différentes dispositions, parce que mon expérience depuis, je sais pas, dans les années 80, quand j'ai travaillé avec l'orchestre BBC à Londres constamment, j'ai fait une fois une répétition de dialogue de Zimmermann. C'est pour deux pianos et grand orchestre. Et les musiciens dans la pièce sont placés dans une forme comme une échiquier. Oui. Alors, une forme comme ça, très librement. C'est à côté d'une flûte, on a une trompette, etc. Alors, c'est une très libre disposition. Et j'ai pensé comme chef d'orchestre pour la première répétition, si je commence la répétition tout de suite dans cette formation, j'aurai deux problèmes. D'abord, que je ne trouverai pas les musiciens, parce que si je regarde ça, je ne me souviens pas où est le deuxième flûte, c'est celui-là, ou parce qu'ils sont partout. Et de l'autre côté, les musiciens, quand ils jouent côté à côté, ils ont une information naturelle, parce que si un flûte commence à jouer, le quatrième sait, ah, nous sommes là, nous faisons ça. Et comme la pièce est écrite de Zimmermann, en façon groupée. Alors, quand les cinq flûtes jouent ensemble, ils jouent vraiment tous les cinq ensemble, alors ça serait beaucoup mieux de faire la première moitié de la répétition dans la forme classique, dans la disposition classique. Et comme ça, ils auront l'information sur la pièce. Et après, dans la deuxième moitié de la répétition, on va déplacer, on met le placement de Zimmermann. Et la différence entre les deux résultats était tellement étonnant, différent, c'est tellement, complètement d'autres choses, que ça c'était le choc pour moi, disons, pour dire, mon Dieu, alors la disposition, c'est aussi important comme une hauteur ou un rythme ou une dynamique ou un choix d'instrument. Alors, penser dans ce terme spatial, de quel côté un groupe instrument ou un soliste joue, c'est absolument la même importance que les autres paramètres musicaux. Bien sûr, ce que j'avais déjà une très grande expérience dans le domaine musique électronique, live électronique. Quand j'ai travaillé avec Stockhausen, c'était toujours une réalisation spatiale, c'est évident. C'est-à-dire, j'avais déjà une expérience derrière moi, c'est ce qui concerne la spatialisation, mais je n'ai jamais pensé que c'est tellement important dans le domaine orchestral aussi. Et depuis ce moment, tout de suite la première pièce, en 86, ce que j'ai fait, le Chinese Opera, c'était l'idée que cette musique de séquence des vents, dans certains moments, on sent une telle tension. Alors la musique, dans certains moments, est tellement dramatique qu'on pourrait très bien réaliser dans une grande formation. Alors cette pièce, dans cette petite formation de, je ne sais pas, 8 ou je ne sais pas combien d'instruments, ce que nous avons maintenant, il joue les notes, mais dans certains moments, ce matériel pourrait supporter une effectif beaucoup plus grande. Et comme j'ai écrit la pièce pour l'intercontemporain, qui est limitée, on a maximum 31 musiciens et pas plus, et j'ai dit, bon, j'ai que 31 musiciens, mais j'ai besoin d'une très grande sonorité, alors je vais utiliser les différentes techniques sophistiquées pour avoir une très grande sonorité avec peu de musiciens. Alors, grande sonorité orchestrale, même je dirais, grande sonorité d'un film, d'un cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est le non plus ultra, c'est le maximum, l'idéal. Quand je suis dans un cinéma et ça commence à sonner, c'est ça ce que je cherche avec l'orchestre aussi. Alors, c'est pour moi, c'est l'événement. Et j'ai découvert que dans le cas de The Chinese Opera, avec la disposition spéciale, j'ai réussi de faire une sonorité qui sont beaucoup plus ce que je connaissais jusqu'à là dans la même formation avec laquelle j'ai travaillé pendant des années. Et puisqu'on joue ce soir Shadows, et peut-être vous avez suivi aussi un peu les répétitions, j'explique d'abord avec l'exemple de Shadows une conception spatiale. Et là où la composition n'était pas seulement un placement des musiciens, mais ça influençait en principe la composition même. Et comme la pièce s'appelle Shadows, j'essayais toujours de donner les formes de Shadows en plusieurs degrés. Alors Shadows, deux Shadows, alors c'est ce qui n'est pas possible dans la vie réelle, c'est produire un deuxième ombre derrière un objet. Et j'ai choisi les deux instruments solo, le flûte et clarinette, qui est une commande. Alors on m'a demandé d'écrire une pièce pour ces deux solistes avec une instrumentation, n'importe quel ensemble, mais les deux solistes étaient donnés. Et j'ai choisi un groupe des bois pour la flûte, comme accompagnateur, comme shadow, c'est le premier degré de shadow, à l'ombre. Vous voyez là, avec le piccolo au bois, basson, clarinette basse et clarinette contrebasse. Alors, ça c'est le premier réflexion, le premier ombre. Pour les clarinettes, sur l'autre côté, un groupe de cuivres. Et pour avoir cet effet de l'ombre sonore, ne joue pas vers le public, mais une son indirecte. Idéal serait dans ces formations comme il montre. Ici au concert, ce n'est pas possible parce que nous sommes trop serrés. Alors, ils me regardent comme ça, mais dans les formations normaux, ils sont à peu près comme ça derrière moi. C'est-à-dire l'effet un peu plus efficace que ce que vous avez écouté ici. Pour ces deux groupes des vents, j'utilise un deuxième degré des ombres, ce sont les cordes. C'est ce que vous voyez là, les cordes à gauche, les cordes à droite, violon, alto, violoncelle, contrebasse. C'est ce que vous voyez ici, c'est une grande formation concernant les cordes. J'ai fait deux versions, une version d'ensemble, c'est ce qu'on joue ici, qui est exactement la moitié des cordes. Ce sont les mêmes nombres des vents, mais pour les cordes, c'est la moitié. Et si on joue dans une formation de grand orchestre, comme c'était le Südwestfunk au début qui a créé la pièce, là on peut prendre plus de musiciens parce qu'ils ont, ils l'attendent, ils n'ont rien à faire, alors ils viennent et ils jouent. Quand j'ai vu je ne me souviens pas quelle version j'ai fait plus tôt, je pense que la grande formation, c'était la première version, dans cet effectif qu'on voyait. Après, quand j'ai vu que la pièce pourrait être jouée par un ensemble aussi, il faut réduire le nombre des cordes. J'ai regardé le matériel et ce n'était pas possible de réduire, tout simplement diviser en deux, parce qu'il manquait les informations. Alors j'ai réécrit le troisième mouvement pour une forme ensemble. Maintenant on a deux versions et deux partitions. Si vous demandez chez Ricordi la partition de Shadows, il faut dire que c'est la version orchestrale ou la version ensemble parce que c'est différent. Pas différent dans le premier et deuxième mouvement, mais le troisième mouvement pour les cordes, c'est complètement d'autre chose. C'est ce qui m'intéressait dans cette disposition, c'est avoir les deux solistes. Premier degré des ombres, deuxième degré des ombres, et en fonction des percussions qui divisent le temps, disons. Et c'est un peu comme dans la séquence des vents, le premier mouvement avec la grosse caisse, c'est quelqu'un qui nous aide, c'est comme dans le jazz, alors ça vient tout ça de penser de jazz, quelqu'un qui donne le tempo et qui nous facilite, disons, de comprendre le rapport entre les notes, c'est des événements. En caisse claire, c'est le kleine trommel, la caisse claire, sizzle cymbal et hi-hat. Et ces petits instruments, quand on joue, si on joue très fin, qui correspond mieux dans cette pièce, on n'entend pas, parce que c'est trop faible pour un grand public ou pour une grande salle, il fallait amplifier. Alors, j'ai prévu certaines amplifications pour les caisses claires et les cymbales. J'étais obligé de faire une amplification parce qu'autrement ça ne sort pas. Et si les deux sont déjà amplifiés, j'ai commencé à penser d'amplifier les soloistes aussi, parce que les soloistes utilisent aussi une technique de temps en temps dans le whispering part. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Excusez-moi. Et sur les deux solos, on a beaucoup de passages, ce qu'on n'entendra pas autrement, seulement avec l'amplification. Je retourne très vite sur l'effet ombre. Alors, la caisse claire et les cymbales, on a une ombre derrière, ce sont les timbales et la grosse caisse. Alors, c'est la double fonction. Et le celesta, ça crée un espace résonnant, disons, résonnant derrière les deux solistes. Et tout ça ensemble, maintenant, ça donne une forme sonore globale dans laquelle l'amplification joue un rôle très important. Je n'utilise pas, en général, l'amplification dans le terme d'être plus fort. Je préfère de dire et pratiquer aussi, de dire qu'à la place d'un haut-parleur, je dirais loudspeaker, je préfère le soft speaker. Also, à la place d'un lautsprecher, un leise sprecher. Parce que c'est tout simplement pour dire au public qu'une mauvaise convention, être un peu suspicieux vers les haut-parleurs en général, que je comprends très bien, c'est naturel, parce qu'on a, l'expérience toujours avec un haut-parleur que ça fort, que ça sonne toujours très fort, pas seulement dans le rock et pop, mais aussi n'importe quel événement, comme quelque part, c'est toujours terrible, c'est sur la gare, c'est toujours terrible, ça, on ne comprend rien, mais c'est fort. Alors, comme j'ai travaillé avec, longtemps avec des haut-parleurs, il faut, c'est ma fonction de dire à tout le monde, écoutez, l'haut-parleur, c'est un instrument. Il ne faut pas peur d'avoir des haut-parleurs, parce que l'haut-parleur n'est rien d'autre qu'un instrument qui a plusieurs fonctions. Il peut être comme un flûte ou comme un hautbois. Alors, on peut imiter plusieurs différentes sonorités avec un haut-parleur. Le plus important, c'est la qualité de haut-parleur. Si la qualité de haut-parleur devient comme un instrument, dans ce moment, on n'a aucune différence si je prends un instrument ou une sonorité produite par un haut-parleur, c'est la même fonction. Dans cette pièce, j'ai mis deux haut-parleurs derrière le public. Et j'ai dit que la flûte, comme dans une grande salle, comme il joue ce côté-là, pour derrière le public, cette direction, ce serait mieux que la flûte sort de ce côté-là, mais je n'ai pas besoin fort, j'ai besoin seulement d'une certaine amplification dans laquelle quand la flûte joue piano, pianissimo, il est plus près au microphone, ce qu'on entend bien derrière le public, et quand il joue plus fort, il s'éloigne, il joue fort sur scène, c'est-à-dire on a un mouvement d'espace automatique par rapport aux nuances, le fort qui vient de la scène et le piano qui vient derrière. De public. C'est exactement la même chose avec la clarinette sur l'autre côté. Et les deux instruments, les cymbales, la percussion, le petit effet, on n'entend pas en direct, ça sort derrière au public, alors on entend un espace autour d'eux. Et j'ai pas écouté ici dans l'église, mais on m'a dit que ça fonctionne relativement bien. Et qu'on crée un espace intéressant, par exemple, la sonorité flûte amplifiée derrière public et le piccolo qui n'est pas amplifié. Alors, dans ce moment, on a un rapport sonore intéressant entre les deux événements. J'aimerais rester encore un petit moment sur les formations, même quand vous voyez, ça sera tout de suite clair. Ce que je veux dire avec les différentes dispositions d'orchestral. Je prends le Chinese Opera, c'est ce que vous avez entendu hier en partie de ça, c'est le Chinese Opera. À mon expérience, doubler un orchestre comme celui-là avec les cordes, avec le flûte au bois, trompette, trombone, cor, basson, exactement la même orchestration de l'autre côté. L'avantage que si vous jouez la même musique dans une formation dans laquelle les flûtes sont côté à côté, et après vous divisez, la puissance sonore, ça multiplie. C'est à peu près la même chose comme dans la technique stéréophonique. Un tout petit peu, alors si vous avez deux informations de deux côtés, ça donne une impression que ça sonne plus fort. Parce que c'est le décalage dans l'espace qui produit cet effet, ça semble être plus fort parce que ça n'est pas ensemble, parce que les deux flûtes ne viennent pas du même côté. Et ce petit décalage dans le temps, ça donne cette information sur les nuances plus fortes. Les deux clarinettes, clarinette basse, pour moi, ça représente un mur, c'est tout simplement, c'est une source centrale. Et après, on a quatre instruments amplifiés, harpe amplifiée, avec l'haut-parleur derrière harpe. Alors, j'appelle ça une amplification locale, qui est très importante. De temps en temps, comme dans le Shadows, c'est important d'avoir une amplification espacé, c'est-à-dire ça sonne en différents lieux par rapport à ce qu'on joue. Dans certains moments, c'est contraire. Il faut dire que amplifié localement que ça donne une impression que cet instrument joue ça. C'est-à-dire, il ne faut pas diviser, il ne faut pas couper la connexion entre le source et le son. Alors, l'harpe comme ça, synthétiseur là, tuba amplifié là, contrebasse amplifié là, et j'ai trois groupes de percussions, c'est-à-dire trois percussionnistes. Le Schlagzeug, la percussion gauche, L, c'est links, gros, gauche, au milieu, Mitte, milieu, et right, also rechts, à droite. Et comme les percussions sont espacées aussi, quand on joue cette pièce, ça donne une énorme puissance et qui était très importante information, expérience pour moi. Et passons à l'autre pièce, après si on n'a pas suffisamment de temps. Mais je pense que ces images sont plus importantes que la musique, pour jouer la musique. Et si vous avez l'occasion, on pourrait organiser aussi un peu plus tard de faire quelques séances ici, seulement écouter la musique avec quelques mots, ce que je peux ajouter. C'est ce que j'aimerais montrer, c'est un peu Atlantis, parce que dans l'Atlantis, on a peut-être avec Madame Faust, vous auriez l'occasion, je vais demander. Alors les exemples musicaux, peut-être on fera plus tard parce que j'ai encore 7 minutes maintenant. Une autre formation orchestrale, relative simple, mais efficace, voilà. C'est Psychocosmos, que j'ai créé en 1993. Dans Psychocosmos, c'était la pièce ce que j'ai créée avec, pour la formation de Mandarin Merveilleux, en 1993. Dans le mandarin, on a trois flûtes, trois hautbois, c'est un effectif donné, disons. Et j'ai pensé de laisser les streicher, les cordes, dans la formation classique. Mais les vents, j'ai divisé une fois avec, dans la formation, disons, aussi classique, les trois flûtes, trois hautbois, trois clarinettes, trois bassons, groupés ensemble. Par contre, les cuivres divisés. Alors, les quatre corps sont à quatre places différentes, trompettes, quatre places différentes. Parce que les cuivres, surtout les trompettes et le trombone, ils sont plus directs. Alors, la source d'où le son vient, c'est beaucoup plus précis que, disons, dans le cas d'une flûte. Flûte aussi précis, mais une trompette beaucoup plus précis. Alors, c'était beaucoup plus important de diviser les cuivres comme ça. L'harpe et le celesta créent un espace autour le cymbalum solo, c'est le cymbalum hongrois, au milieu. Les harpes, cymbalum celesta, c'est une unité sonore. Et la percussion, derrière chaque groupe, les chiffres verts sont les percussions. Premier groupe, deuxième groupe, pauken, c'est le timbal. Troisième, quatrième groupe, cinq musiciens de percussion, créent un espace réverbérant, disons, derrière l'orchestre. Vous voyez ici encore quatre petits groupes trio à cordes, streich, c'est un string trio, le ABCD, que normalement je place autour le public, alors dans la salle. Et ces quatre groupes avaient déjà différentes formations, de temps en temps ils ont joué sur scène, de temps en temps derrière l'orchestre. Ça, c'est une formation mobile, on peut adapter pour chaque salle. Où est-ce qu'on met, parce que c'est important que ça serait quelque part autour le public. Mais c'est autour, ça peut être aussi quelque chose de très loin, et ça fonctionne quand même. Et encore un dernier exemple concernant l'Atlantis. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça. Vous voyez tout. Dans Atlantis, et je commencerai avec les cordes, disons dans le terme classique. On a seulement un string quintet, un streicher quintet, le quintet à cordes. Et curieusement, derrière cet immense orchestre, sans amplification, et c'était une découverte pour moi aussi, j'ai pensé que ça pourrait fonctionner. Mais je n'étais pas sûr. J'ai préparé la première fois une amplification pour la sécurité, si c'est nécessaire, on va amplifier. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça fonctionne sans amplification mieux qu'avec. Ça, c'est absolument pas nécessaire. C'est peut-être la façon comme j'ai utilisé les cordes et quand ils jouent, mais aussi peut-être à cause de défects qu'ils ont juste au mur. Alors, on a une réflexion beaucoup plus forte par le fait que le mur reflète les sons des cordes que dans le cas quand les cordes jouent dans la position traditionnelle. Et j'aimerais vous dire que aussi en temps, dans le répertoire classique, de temps en temps, j'utilise cette forme renversée. Et par exemple, je donne deux exemples. C'était le Parsifal à Lyon, dans une forme concertante. Et là où j'ai mis les cuivres directement devant, à côté de moi, devant moi, parce que nous étions dans la fosse. Alors on a commencé dans la fosse. Entre les cuivres et le public, on avait cette petite barrière, ce petit mur. Après, j'ai mis les bois. Et après, j'ai commencé à mettre les cordes et les chanteurs derrière les cordes. Et à peu près la même disposition, j'ai utilisé une fois à Vienne, à la Concerthaus, pour le Château Barbe Bleue de Bartók. J'ai mis les cordes sur les gradins, les deux solistes derrière les cordes. Et les solistes, on m'a dit chaque fois que c'est idéal pour eux, mais enfin, ils ne sont pas à côté des cuivres. Alors, pour le public, c'est absolument différent, c'est magnifique. Alors, normalement, on pourrait jouer comme ça, ces œuvres dans ces formations, parce que la sonorité, c'est comme on ouvre une fenêtre. Alors, ça change tellement la sonorité que cette approche de commencer avec un son plus dur et après adoucir, ça donne une espèce beaucoup plus large que la formation classique. On ne peut pas faire avec chaque pièce, mais les deux exemples montrent comment ça peut fonctionner. Et j'explique très vite encore ce que vous voyez vous-même aussi, et vous comprenez déjà, j'ai encore 30 secondes. Les groupes 1, 2, 3, 4, 5, ça représente toujours un flûte, une hautbois, alors de chaque instrument un flûte, un hautbois, un clarinette, un basson, un trompette et un trombone. Alors on a toujours 6 dans le groupe 1. On a exactement la même formation dans le 2, même formation dans le 3, dans le 4 et dans le 5. Alors c'est toujours 6 musiciens dans un groupe là. J'ai une mur d'espace, disons, des corps, le HN, c'est le corps, horn en allemand, 1, 2, le 3e, 4e, 5e, 6e, et le 2 tout bas, le 1er, 2e. On a deux solistes, bariton solo, c'est le chanteur, cymbalum solo, lié au chanteur, un kind, un boy soprano, très loin, amplifié. Et puis un mur de saxophone, alto, soprano, ténor, bariton, puis les trois synthétiseurs qui sont devant le chef parce que le contact avec eux c'est le plus important, mais le son, ça arrive de la salle. Et à la création, c'était la Philharmonie de Cologne, on a 5 ponts au-dessous du plafond, c'est derrière le public, au-dessus du public, et j'ai mis les haut-parleurs indirect. Alors les haut-parleurs qui sonnaient vers le plafond et comme le son synthétisé, le cœur synthétique, avec assez grande puissance, ça sonnait partout, mais de le plafond, on avait vraiment l'impression qu'on est avec eux sous l'eau. Alors quand ça commençait à sonner, on a une impression comme ça, c'est énorme, ça fonctionne très très bien. Mais les trois musiciens sont devant mon nez, deux pianos électriques et les trucs en vert sont les percussions. 1, 3, 5, 7, 9, etc. sur l'autre côté. Et comme ça, j'ai créé entre le public et l'orchestre un mur de percussions. Alors, je voulais isoler l'orchestre de public avec un mur de percussion. Tout ce qu'ils font, ça sera en premier plan et le reste, les vents, sera encore plus loin. Et la raison pour mettre les numérotés comme ça, c'est une raison pratique. Pour moi, ce que je sache, les impairs, tous les impairs sont gauche et tous les pairs sont à droite. Si je dis 1, 2, 3, 4, 5, je ne me souviens plus qui joue quoi et où. Dans ce système, je suis sûr que les impairs sont à ma droite, à ma gauche. Alors, c'est seulement pour montrer que chaque pièce orchestrale, bien sûr, la pièce, ce que j'ai mentionné tout à l'heure pour Boulez et pour LSO, formation absolument classique, absolument sans changement des dispositions, parce que c'était demandé comme ça. C'était un concert, abonnement, joué 7 fois pour les différents publics de différents goûts, alors très, très bourgeois si vous voulez, parce que c'était joué toujours pour dans un cadre d'un festival ou d'un concert abonné. Alors, il fallut accepter les possibilités de rester dans le cadre classique. Bon, ça c'est pour aujourd'hui. Si on se voit, je vais encore faire les annonces sur l'autre thème. J'aimerais vous montrer encore certaines choses. J'ai encore beaucoup de choses à raconter, mais pour l'instant, il faut arrêter maintenant. Merci beaucoup, on se voit ce soir.